Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez Droit au but. Voici vos animateurs, Gabino DeFalco et Jean-François Dos Santos.
Oh yeah!
Si on calcule les arrêts de jeu, là, ça fait au-dessus de 300 minutes que l'Impact n'a pas marqué de but. Au-dessus de 300 minutes. On a assez parlé de Rémi Garde.
Tony, est-ce que Liverpool peut jouer les troubles fêtes à Ronaldo et sa bande le samedi prochain?
Falloir gérer ce stress-là.
Donc, David est prêt. Il est à 100% de sa capacité physique et mentale.
Selon les premiers au lit, ça devrait être un walk in the park.
Las Vegas! Are you ready?
Theodore moving on with it now. Through the red
zone. Nordi, Marchetto, Perron, ils sont solides pareil, eux autres, incroyable.
Let's get ready to rumble!
Mercredi 30 mai, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gabino DeFalco et je suis en studio avec mon bon ami et co-animateur Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
Ça va super bien, merci
ben
toi.
Oui, écoute, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le monde du sport?
Ben pour commencer, la finale à Ligue des Champions.
Oui, belle victoire de 3-1 du Real Madrid face à Liverpool. C'est-tu arrangé le soccer?
Ça avait de l'air.
Hey, Colin, le gardien qui a donné, comme on dit, deux sapins, deux cadeaux à Real Madrid.
Et là, puis quelle perte pour l'équipe nationale de l'Égypte, Mohamed Salah.
Terminé,
il ne sera pas de la Coupe du Monde.
Parle-moi donc de ton ami portugais, Cristiano Ronaldo, qui pourrait quitter le Real Madrid. Là. C'est quoi cette histoire-là?
Il a déclaré après le match que ça a été un honneur pour lui de jouer pour le Real Madrid.
Oh.
Est-ce qu'il va vraiment quitter? Est-ce que c'est une façon de renégocier un contrat à la hausse? Juste l'avenir le dit, ben ouais, mais d'après moi, il va quitter parce que là...
Un contrat à la hausse, non, il a pas besoin de combien pour vivre, ce gars-là?
Ben, c'est pas question de combien pour vivre, c'est combien tu peux avoir, tu vas chercher le maximum tout le temps. Mais de toute façon, là, avec le Real, là, OK, quand ça marche pas, c'est de la faute à Ronaldo, il est pas à la hauteur, il est ci et ça, mais quand on gagne, quelle victoire d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est portugais, puis encore une fois, la guerre entre les Espagnols et les Portugais.
Puis la Coupe du Monde qui commence dans quelques semaines, là.
En plus.
Ça reste à voir, donc Ronaldo avec Montréal, peut-être, s'il est agent libre.
Non,
mais écoute, il a 33 ans. De toute façon, il est trop vieux.
Il va falloir à Montréal. Ben oui, c'est vrai, il est trop vieux.
Check Donadel, il a 33 ans. Il est trop vieux.
Exact. Puis, il faudrait-tu en vendre de la mozzarella pour. là.
Parle-moi donc de l'Impact de Montréal qui, encore une fois, écoute, j'ai l'impression de me répéter à chaque semaine une autre défaite, puis c'est encore pitoyable.
À chaque fois qu'on parle des équipes de Montréal, c'est pitoyable.
On n'a même pas été positif, je pense, une fois cette année.
On déménage-tu le show ailleurs?
Non, sérieusement. Écoute, défaite de 2-0 face à, pas Manchester United, là, le Minnesota United. On est loin de ça, là. Puis écoute, Rémi Garde qui arrête pas d'envoyer ses joueurs en dessous de l'autobus de semaine en semaine. Et on affronte en fin de semaine le Dynamo de Houston. Le directeur général du Dynamo, c'est un ancien de l'Impact, Matt Jordan. L'année passée, ils ont eu 50 points, ils ont fait les séries dans l'Ouest. Et cette saison, 5 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls avec la plus petite masse salariale de la MLS.
Ça veut dire quoi, ça?
Le recrutement.
Quand le recrutement est bien fait?
Ouais.
On est capable de s'en sortir très bien avec peu de fonds.
Ils ont deux joueurs désignés là de très bas âge, là, je pense.
Puis très bas salaire aussi.
Très bas salaire, en bas d'un million. 600 000.
Et voilà.
600 000. Notez ce joueur, Ellis. Il va nous faire mal, lui, en fin de semaine. Écoute, Jean-François, parle-moi donc de la finale de la Coupe Stanley là, entre les Golden Knights et les Capitals. Mes Capitals de Washington.
Oui, tes Capitals.
Ben oui, on va gagner cette année.
Mais tu vas gagner quoi?
Quoi?
Tu vas gagner quoi?
C'est notre année. Je m'excuse. As-tu vu le line-up qu'on a? Ovechkin, TJ Oshie, Backstrom, même Lars Eller, Devante Smith-Pelly, okay. Braden Holtby. Écoute, on a un club pacté. On devrait gagner ça facile. Alors, oui, on a perdu le premier match, là, mais on devrait gagner ça en 6 ou en 7.
Ben, voyons, William Carlson, Jonathan Marchessault, David Perron, Riley Smith.
Non, mais c'est, vous avez été chanceux dans le premier match. Là.
Thomas Nozak.
Ben, mais c'est qui ces Ryan gars-là? Reeves. C'est qui ces gars-là?
C'est des gars qui sont là quand ça compte.
C'est pas le bottom six qui va te faire gagner une série.
Ben oui, c'est justement ces gars-là qui te font gagner en série. C'est les gars que tu t'habitues pas à... Tu t'attends pas, puis boum, ils arrivent, ils te font mal. C'est ça.
Puis
c'est
le spectacle d'avant-match. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, du spectacle d'avant-match?
C'est-tu écœurant?
Tabarouette. On est loin du petit gars qui patine, le petit gars de l'âge, puis oui, qui patine avec le drapeau du Canadien.
Faire ça? On est rendu bien en avant, des années-lumière en avant. D'après moi, là, c'est... la version Star Wars de ce qui se passe au centre.
Ben oui, il y avait même un invité spécial au début de la game. C'était qui? Michael Buffer.
Ben oui.
Let's get ready to rumble.
250 000 piastres, tu fais des poches pour avoir dit ça.
250 000 pour un petit liner.
Ben oui.
Comment ça coûtait cher, là?
C'est pas grave. Sky's the limit, on est à Vegas.
Sky's the limit. Non, mais sérieusement, tu penses-tu que vraiment que les Golden Knights vont causer une surprise? Là, ils sont 13-3 depuis le début des séries. Ça va s'arrêter où?
Ils vont causer une autre surprise, tu veux dire.
Je suis plus capable.
Ils sont pas arrêtables, là.
Ça se peut pas. Ça ne se peut pas.
La série se jouait là hier.
Je connais même pas 10 gars des Golden Knights. À force de les regarder, oui, je connais, mais tu sais, c'est des nobody.
Gérard Gallant, il arrive dans le dressing room et il dit « Écoutez les boys, on a gagné la première game puis on a joué du hockey pourri. On peut juste faire mieux. »
Pour moi, il fait jouer genre le film Miracle en boucle dans la chambre parce qu'écoute, je sais pas comment il fait pour motiver ses joueurs. Je fais un parallèle avec 93. Là. C'est comme si Jacques Demers a fait la même chose avec des gars comme Ed Ronan, Paul DiPietro, Kevin Haller, écoute, Gary Lehman. Il leur avait fait à croire que c'était la meilleure équipe de hockey au monde. C'est comme ça que le Canadien a gagné la Coupe
et Patrick Roy. L'important, c'est d'y croire. T'as un bon gardien de but. Puis après ça, les gars, ils croient en avant. Ils se donnent... Si je t'avais réussi à te faire à croire que t'es Mario Lemieux, là, puis tu y crois vraiment,
et voilà.
Ben tu deviens Mario Lemieux.
La dureté du mental. Hey, on en parle dans quelques instants avec Carl Vaillancourt. On va rejoindre le journaliste de TVA, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
Ça va super bien, vous, messieurs.
Oui, ça va bien. Carl, le titan d'Acadie Batters qui cause une belle surprise en disposant des Pats de Regina en grande finale de la Coupe Memorial au compte de 3-0. Carl, as-tu été surpris de voir une performance aussi impressionnante du côté du titan?
Écoute, je t'arrête tout de suite, c'est pas une surprise. Je disais, on avait une équipe bâtie, avant même que le tournoi commence, on avait une équipe bâtie à la ligne bleue. Bon, dans le filet. On était la meilleure équipe arrivée là au tournoi de la Coupe Memorial pour ce qui est de la défensive et du gardien de but. Ça, c'était ce que je pensais avant même que le tournoi commence. La réalité, c'est qu'en plus de ça, on avait peut-être l'une des équipes les plus complètes offensivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple, Samuel Italien. On a d'autres attaquants comme Truchon Viel qui a été exceptionnel durant le tournoi. Et ces joueurs-là ont vraiment été des joueurs qu'on s'attendait. Il fallait vraiment que ces joueurs-là, ces joueurs d'impact-là dans le Pouliot, soient en mesure de vraiment être intimidants sur la patinoire, de créer des chances de marquer, de patiner. On le sait, là, les Titans, c'est une équipe extrêmement rapide. C'est ce qui a causé des ennuis aux autres équipes dans le circuit courto lors des séries. Et on a répété ça lors de la Coupe Memorial. Et qu'est-ce qui est arrivé? Très simple, on a gagné. Donc, franchement, je dirais pas une surprise parce que au contraire, là, on savait que les Titans étaient là pour compétitionner avec les autres formations. Ils ont tout simplement été les meilleurs. On a dit de resserrer le jeu. Un système de jeu extrêmement similaire à celui des Golden Knights de Las Vegas. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de similarités. Un jeu très serré en zone neutre, un jeu très serré défensivement dans nos zones. On a blanchi l'adversaire en finale, donc c'est sûr que c'est quand même là, une performance assez inspirante qu'ont fait les hommes de Mario Pouliot dans ce tournoi de la Coupe Memorial.
Enfin, la Coupe Memorial retourne au Québec après 5 ans. Là, c'est quand même le fun. Puis, tu sais, fait à noter, là, il y a juste 3 gars draftés avec les Titans.
Ben oui!
Comparativement à 8 avec les Pats de Regina.
C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même une surprise, là, Carl.
Ouais, ben en même temps, faut aussi tenir compte de plusieurs facteurs. Là, je regarde Noah Dobson, qui était probablement le meilleur joueur des deux équipes sur la patinoire. Lui, il va sortir parmi les 10 premiers là, au prochain repêchage. C'est peut-être même... Il y en a certains là, où je commence à penser, mais aussi, qui pourraient sortir entre le 5e et le 6e rang. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on n'a pas le choix de cette trempe-là du côté des passes de Regina, puis encore moins dans les deux autres formations se sont pas rendus en finale. Donc, quand on regarde ça, d'un œil attentif, ben, on peut s'attendre à ce que les Titans, ben, ils se sont retrouvés parmi les meilleurs. Et on le sait, là, il y avait aussi Olivier Galipeau. Olivier Galipeau n'a pas été repêché encore dans la Ligue nationale de hockey, mais faudrait, je serais pas surpris qu'il obtienne une invitation avec un entraînement national dès
cette année. Ben oui.
Justement.
Le meilleur défenseur dans le junior cette année, de loin.
Justement, penses-tu que le tricolore va inviter quelques joueurs qui étaient présents à cette finale-là?
Moi, je garde pas le choix, là, mais j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, Carl. Des gars comme Truchon-Viel, Galipeau, on peut pas laisser passer ça, là.
Écoute, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va le faire? Je pense pas. Est-ce qu'on devrait le faire? Je pense que oui. C'est tout le temps la question avec le Canadien de Montréal. On le sait, là, c'est difficile d'avoir des jeux au Québec. On a 4 dépisteurs sur 15 qui sont au Québec, mais on n'en repêche jamais un. On en invite à peu près un par 4 ans, puis ça ne va jamais que c'est nécessairement une grosse trouvaille. Là, je pense que le dernier, là, c'est Alexandre Alain, en ce moment, là, qui est quand même une belle surprise, qui a eu une très bonne saison de junior. Je suis quand même heureux qu'on ait fait ce pas-là. Mais là, tu vois, on vient de signer deux défenseurs de la République tchèque. Donc, est-ce que là, on va être capable de donner un contrat à Galipeau s'il le fait très bien? Il y a une question de gestion des effectifs aussi du côté du Canadien et du Rocket de Laval. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? Est-ce que ça va devenir embêtant si on se ramasse avec trop de contrats? Puis est-ce qu'on va pouvoir prendre une chance? Mais je suis pas mal certain qu'il y a des équipes qui vont la prendre, cette chance-là. Parce que,
pour revenir...
Galipeau, d'après moi, peut jouer dans les NHL de l'an prochain.
Pour revenir au gardien de but, Evan Fitzpatrick, là. Écoute, Fitzpatrick, c'est un choix des Blues de Saint-Louis. Est-ce que les Blues ont enfin trouvé un gardien pour arrêter les rondelles? Écoute, c'est qui le meilleur gardien de but des Blues, là, dans leur histoire, là? Écoute, j'en vois pas. À part, tu sais, peut-être Curtis Joseph, il y a eu une coupe de flash, là. Écoute, ça n'a jamais été une organisation qui a développé un bon gardien de but, là.
Je vais te raconter une anecdote qui m'a fait bien rire. Je parlais avec le frère d'un des joueurs des Titans de Gabby Battles, puis il me disait, on n'ira pas loin avec Fitzpatrick devant le filet. J'ai dit, ben, attends un peu. J'ai dit, Fitzpatrick, là, j'ai dit, on s'est tout évalué par rapport au fait que ses statistiques, là, sont pas reluisantes. Ben, il goulait avec une équipe qui était, mettons, milieu, fin de peloton avec le Phoenix de Sherbrooke. J'ai dit, là, il va se ramasser avec une équipe gagnante. Il va être à surveiller. Il va être probablement l'un des meilleurs joueurs des séries, mais même l'un des meilleurs gardiens de but de tout le Canadien. Donc, il me disait, oh, jamais de la vie. Finalement, il m'a rappelé hier, il m'a dit, écoute, t'avais totalement raison. J'avais sous-évalué complètement Fitzpatrick. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui avaient commencé à le faire. Écoute, c'est un gros gardien de but. Pas loin de 6 pieds 4, 210 livres. Un format de gardien de but dans la Ligue nationale, aujourd'hui, c'est ça. Puis, extrêmement rapide ses déplacements. Il essuie les lancers. Puis moi, j'ai trouvé excellent lors de la Coupe Memorial. Puis, ça aurait pu être lui le joueur par excellence pour moi, là.
Ouais.
J'avais aucun problème avec ça. Puis, est-ce qu'il va être capable de répéter le même exploit dans la game échelle? Donc, tu sais, les gardiens de but, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Tu sais, il faut s'attendre à ce qu'il puisse commencer peut-être à percer, là, vers 24 ans, 23, 24, 25 ans. Là, mais les trois prochaines saisons, là, on devrait le voir évoluer dans la game échelle de hockey, là, sans problème.
Carl, là, je suis tanné de te le dire, là, mais les Golden Knights contre Maycaps dans le premier match de la série finale de la Coupe Stanley, ben écoute, ils ont gagné 6-4. Comme Jeff disait, c'est un duel de gardiens qu'on a vu dans le premier match. Écoute, Carl, j'aimerais savoir ta prédiction là pour la finale de la Coupe Stanley. En à peu près 2-3 minutes, là, on va essayer de débattre ça, là, parce que là, je suis tout mêlé. On est rendu au mois de juin, puis je connais pas encore tous mes joueurs des Golden Knights, là.
Ben écoute, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur. Là. Puis là, je pense que c'est ça le secret du côté des Golden Knights. On est capable de marquer sur tous les trios. On l'a vu hier, Ryan Reeves. Ryan Reeves, il n'a aucun but en saison régulière, mais il y en a deux en série, dont un but dans le dernier match de la finale de l'Ouest. C'est un joueur qui, bon, il a un aspect physique, il patine, il frappe, mais jamais on s'en serait attendu qu'un gars comme Ryan Reeves pouvait marquer un but dans la finale de la Coupe Stanley. Jamais dans 100 ans. Même au Parlement, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire la finale de la Coupe Stanley là, au courant de sa carrière. Là, aujourd'hui, ben, on a des gars comme Nozek qui a été sélectionné qui est au repêchage d'expansion. Ce joueur, il appartenait au Red Wing.
Mais oui, donc, il n'a jamais été repêché, ce gars-là, dans la Ligue nationale.
Ben, c'est ça, ce gars de 25 ans, il avait pas vraiment d'antécédent, il n'avait pas joué vraiment à la Ligue nationale, personne ne le connaissait vraiment. J'étais le premier surpris, mais je disais que c'est ça. Mais regarde, vous voyez, encore hier, j'ai vu gagnant dans le match. Fait que, tu sais, je pense que tout fonctionne en ce moment pour les Golden Knights. Mais là, les Capitals de Washington, on est quand même l'un des meilleurs entraîneurs dans la ligue, Barry Trotz. Moi, je regarde l'équipe là, qu'on a. Là. On n'a pas été très chanceux hier à plusieurs occasions. Je pense que Fleury était plus solide que Hobie. C'est peut-être ce qui explique aussi là, qu'on était en mesure de gagner ce match-là du côté des Golden Knights. Si Hobie se ressaisit, on va avoir toute une série devant nous. Écoute, ça va se rendre dans ce match. On va avoir une finale en 6 ou 7 matchs là, du côté la finale de la Coupe Stanley, mais je pense beaucoup que 7 matchs, ça va être pas mal qu'on va avoir là, comme finale. Et je vais me mouiller. Ça va être
les Capitals.
Yes, sir. Yes, sir. Yes.
OK, là, arrêtez ça, là. Comment tu peux gager contre Vegas?
Quoi?
Comment tu peux gager contre Vegas? C'est l'équipe de l'heure, voyons donc.
Mais c'est l'équipe de l'heure, mais regarde, là, c'est fini. Ils ont accordé 4 buts hier. Tu vois que, genre, il y a des trous dans cette défensive-là.
Ce qui est le fun, là, c'est que depuis le début des séries, je gage contre Vegas, Vegas gagne. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit, je vais gager pour Vegas, puis je vais dire à monde que Washington va gagner.
Ouais, c'est ça.
Je vais renverser la tendance, tu sais.
T'es pas fou, t'es pas fou.
C'est une question de logique.
Ben, écoute,
écoute, moi, je faisais partie de ceux-là qui disaient, ça se peut pas, Vegas, c'est fini, là, okay, là, c'est assez. Ben, je les regarde jouer, là, pis tabarouette.
Ben oui, toujours au premier sur le disque, il applique
ça
beaucoup
patine,
de pression.
Ça patine, pis Fleury, ben, il fait le travail.
Okay, il fait gros arrêt. Comme je le dis, un peu de magie, du momentum, pis un gardien en feu, c'est ça que ça donne. Tu te rends en finale de Coupe Stanley.
T'oublies Michael Buffer aussi, qui présente
Michael Buffer, ben oui. Toi, on n'a pas les moyens à Montréal de sortir Michael Buffer.
Et à 200 000, let's get ready to rumble.
On a quoi, Carl?
On a Ginette.
Oui, c'est vrai, on a Ginette, oui. Je pense pas que c'est le même cachet, par exemple.
Ben, Ginette, là, elle fait gratuitement, je suis persuadé pour l'occasion de Montréal. Je pense que tout le monde est content.
En tout cas, ça reste à suivre. Écoute, Carl, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
Merci, monsieur.
Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter, podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
Beaucoup de sujets dans le domaine de la boxe et on jase avec notre experte Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va?
Ça va très bien. Je pense que j'ai chopé la grippe qui courait à Toronto il y a 2 semaines.
Bon, t'es pas chanceuse?
Ben oui.
On va t'envoyer.
Il y avait des rumeurs qu'il y avait une grippe qui courait. Je pense que je l'ai attrapée.
On va t'envoyer du boclé par la poste, Nat.
Avec plaisir, je vais le prendre.
Cool. Nathalie, on commence avec le combat de David Lemieux contre Karim Achour. David qui l'emporte par décision unanime des juges. Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat de remise en forme pour le clan Lemieux? Là?
Écoute, je ne m'attendais pas à un Lemieux aussi actif dans les premiers rounds suite à sa pesée où il avait l'air rachidique, où il était complètement pas là. Même, j'ai parlé avec Jean Langevin, un gars de la régie, OK? Je parlais avec lui samedi soir à Québec. Puis il me disait que quand il l'a vu rentrer à la pesée, il a dit, voyons, c'est qui lui? Qui est à côté de Camille? Ben, c'est David Lemieux. Il l'a pas reconnu. Le gars de la régie, il a pas reconnu David. C'était épouvantable. Alors que 24 heures après, qu'il y a autant d'énergie, qu'il martèle à Achour autant. Vraiment, j'ai été vraiment étonnée. Ça a été un excellent combat. Achour m'a étonnée d'en recevoir autant, d'être capable d'encaisser autant également. Alors, là, il y a des rumeurs qui couraient que, bon, il était à 160 livres, il a pesé à 162 et qui, là, il montrait peut-être à 168. Sous le coup de l'émotion, Camille et Stéphane auraient dit ça. Mais là, je pense que David et son entraîneur ne sont pas d'accord. Marc Ramsey ne sont pas d'accord. Soit qu'il reste à 160 et qu'il change des petites choses, des petits détails, ou bien qu'il fasse du catch weight. Mais vous savez que quand on fait juste du catch weight, on n'a pas de droit, on peut pas se battre pour une ceinture. Alors, s'il veut Canelo, ça va. Mais s'il veut Golovkin à nouveau, il pourra pas faire un catch.
Comment ça se fait qu'il y avait de l'air si magané que ça, là, 2-3 jours avant le combat? C'est-tu, genre, la perte de poids? C'est quoi?
Ben oui, c'est la coupe de poids. C'est extrêmement difficile pour le corps de faire une coupe de poids. Ils se sont rendus compte mercredi que déjà il était overweight, là. Il y en avait trop puis à perdre, là. Et qu'il se rendrait peut-être pas à vendredi pour la peser. Alors, c'est à partir de mercredi qu'ils ont commencé, selon mes informations, qu'ils ont commencé à travailler fort. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il a pas dormi de la nuit pour perdre du poids. Et il est pas arrivé. Alors, t'imagines-tu, toi? Imagine, OK, Gavino?
Oui, vas-y.
Le mercredi, tu as 10 livres à perdre pour le vendredi midi.
Ouais.
Puis tu ne dors pas de la nuit. Tu es plus capable de perdre 10 livres.
La réponse est peut-être non. Moi, je te dis non. Non, OK.
En tout cas,
je te confirme
si
que non.
Si si t'essayes, je te jure que le vendredi, t'es pas fait comme une rose.
Ah, mais j'ai un beau flex chez nous, mais qui accumule de la poussière, là, mais c'est pas grave. Non, mais je
c'est
pense
pas juste l'acheter puis ça marche tout seul.
Non, c'est pas ça, pantoute. Donc, un peu laborieux du côté de David Lemieux.
Non, mais
donc,
blague à part, là, ouais, c'est comme un problème récurrent dans son cas. Tu sais, la perte de poids, on dirait que c'est toujours laborieux, puis il y a de la misère. Fait que, tu sais, peut-être, je sais pas qu'est-ce que...
C'est la deuxième fois, je pense, en carrière qu'il fait pas le poids. Mm-hmm.
Oui, c'est avec De La Rosa qui avait pas fait le poids. Et avec De La Rosa, malheureusement, le combat n'a pas eu lieu parce que le clan De La Rosa n'a pas voulu. Ils ont pris 20%, je pense, puis ils sont partis. Ils ont pas voulu se battre.
Okay.
Ils ont mis ça à cette époque-là, ça fait 2 ans de ça. Ils avaient mis ça sur le dos de son nutritionniste.
Mm-hmm.
Et donc, le nutritionniste n'est plus là, évidemment, dans le camp Le Mieux. Mais là, il se reproduit ça. Alors, je pense qu'ils ont un examen de conscience à faire. Il va falloir qu'ils trouvent c'est quoi le problème. Mais est-ce que c'est physiologiquement? Est-ce que c'est parce que rendu à 29 ans, tu sais, un homme, vous le savez, moi, je suis pas un homme, mais vous le savez, ça épaissit avec les ans, avec l'âge. Alors, tu sais, on a de plus en plus de difficultés à garder sa taille de 20 ans.
Alors, est-ce je que comprends c'est, pas du tout de quoi tu parles.
C'est vrai. C'est vrai, je rentre plus dans mon saut de secondaire 5. Mais je suis pas loin, là. Je suis pas loin, là.
Mais en hauteur, tu parles.
Oui, c'est ça, en hauteur.
Ben, vous êtes chanceux que ce soit un podcast, pas de photos ou pas de... Ah non, c'est vrai, vous avez le site internet, vrai, on peut vous voir.
Oui, absolument, mais okay. Malheureusement, j'ai jeté les photos.
Bon, ben j'invite les gens à se rendre sur Facebook pour voir la structure osseuse que vous avez.
Ouais. Ben, c'est ça.
Costio Clayton a finalement eu la chance d'avoir un combat face à un adversaire de taille. Il a affronté le Britannique d'origine néerlandaise, Stephen Daniel. Peux-tu nous parler de ce combat?
C'est un combat dans lequel Costio a dominé bout à bout, là, les 12 rounds, vraiment. Tu sais, Costio, parce que, écoute, c'est étrange parce que samedi soir, on avait de l'action à chacun des combats. Est arrivé le combat de Costio et là, c'était bon, c'était pas un mauvais combat, là. Il a été parfait, techniquement parfait, son plan était parfait, mais c'était pas un combat enlevant. Mais quand même, qu'est-ce qui compte? C'est que ce soit un combat enlevant puis prendre des trop gros risques ou si c'est d'aller jusqu'au bout et de gagner? Bon, écoute, ça a été quand même un bon combat. J'ai hâte de voir la suite pour Costio parce qu'il monte, il monte, il monte, il continue de monter. C'est bien intéressant. Il est beau à voir boxer.
Nathalie, samedi, juste avant le Gallop Box, tu as assisté à l'intronisation de 12 nouveaux membres du Canadian Black Belt Hall of Fame et tu as eu la chance de t'entretenir avec un des grands, soit Alain Bonamy. Quel gentil monsieur, hein, Nathalie?
Quelle belle rencontre. Je l'avais jamais croisé. J'avais toujours entendu son nom. Je l'avais jamais croisé, jamais parlé. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire. Et on était censé faire une petite entrevue d'environ 4-5 minutes. Ça a duré 26 minutes et demie. On s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Il a été d'une générosité et il m'a parlé de son intronisation au temple, ce qui est un honneur pour lui. D'ailleurs, ce temple de la renommée existe depuis 12 ans et chaque année, intronisent, oui.
Mm-hmm.
8 à 12 personnes qui ont marqué les arts martiaux et Alain Bonamy en fait partie.
Ouais.
Mais Alain Bonamy, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles récemment, il est atteint du Parkinson,
mm-hmm.
Il tremble un peu, il a toute sa tête et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a parlé de sa maladie, mais il m'a surtout parlé de son traitement.
Ben
il
justement,
peut pas prendre de médicaments.
Justement, Nathalie, on écoute un extrait que tu as recueilli avec Alain Bonamy qui nous parle de son traitement contre la maladie de Parkinson. Ça dure à peu près 20 secondes. On écoute.
Je prends aucun médicament. C'est ça le but du film. Les médicaments, oui, cachent les symptômes. Débarrasse-toi, c'est donc les caches. Ton corps, son système s'habitue aux médicaments, puis t'en prends de plus en plus. Ces médicaments-là te détruisent le reste de l'estomac.
Donc, comme dit Alain Bonamy dans l'extrait, M. Bonamy ne prend pas de médicaments, là, Nathalie.
Non, pas du tout. C'est un traitement asiatique. Aucun médicament. Il a réussi à stopper la progression de sa maladie de cette manière-là. Il m'a même dit, comme vous l'avez peut-être entendu, là, qu'il y a 80 personnes dans le monde qui ont suivi ce traitement-là et qui n'ont plus le Parkinson. Alors, c'est vraiment intéressant. Et je vous dis, il y a un documentaire qui est en train de se tourner sur Alain Bonamy qui va être qu'on va pouvoir voir l'année prochaine, dans un an environ.
Mm-hmm.
Alors, c'est sur sa maladie, sur lui, sa maladie, tout ça. Et j'ai posé la question, à savoir jusqu'où son métier de recevoir des coups sur la tête est responsable de sa maladie de Parkinson, parce qu'on sait que Mohamed Ali, lui, était directement lié. Et il dit, ça n'a aucun lien. Ma mère est atteinte du Parkinson et moi, je suis atteint. Et on l'a regardé dans la famille, donc c'est héréditaire. Mais c'est tellement intéressant. J'ai l'entrevue complète. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un petit montage rapide, là, puis vous mettre ça sur... sur votre site Facebook éventuellement dans la prochaine semaine. On va faire ça.
Oui, absolument.
Marie-Ève Ducaire défendra son titre des super mi-moyens pour la première fois le 9 juin prochain en grande finale du gala Grand Prix qui aura lieu au cabaret du Casino de Montréal. Est-ce qu'on connaît son adversaire?
Yamila Belen Abdallaneda.
Oh, pas là, c'est combien de points sur Scrabble?
Écoute, je sais pas, mais c'est payant. Mais c'est une fille de l'Argentine. Ça a été long avant qu'on connaisse son adversaire. On l'a su seulement hier. On l'a su lundi. Alors, ça a été long à 2 semaines du combat. Là, je trouve ça assez risqué de réussir à avoir une adversaire comme ça, si proche du combat, parce que Faut travailler spécifiquement à un moment donné. Quoique Stéphane Arnois, l'entraîneur de Marie-Ève, me disait non, moi, de toute façon, peu importe le moment où on a l'adversaire de Marie-Ève, moi, je l'entraîne d'une seule manière parce que je veux qu'elle boxe comme ça et c'est l'adversaire qui éventuellement va s'adapter. C'est sûr qu'il s'adapte dans le ring éventuellement. S'il voit que ça fonctionne pas, mais il l'entraîne d'une façon. Puis il n'y a pas besoin de manière spécifique d'avoir l'adversaire trop longtemps d'avance. Alors, cette fille-là, Yamila Belen Abdallaneda, c'est une... oui, c'est ça. Elle a 6 victoires, 1 défaite, 3 KO. C'est un combat prévu pour 10 rounds. Alors, donc, qui est classé actuellement la 2e WBC, WBA aussi chez les super moyens. Et 3e IBF chez les mi-moyens, 147 livres. Alors, on va essayer de continuer à la faire monter, puis éventuellement, on va la voir assez rapidement dans un combat de championnat, souhaitons-le.
Ça reste à surveiller. De toute façon, Nathalie, on a un gros mois de juin qui s'en vient avec Braid Wood, avec Simon Keane, Jean-Pascal contre The Boss Bossé. Donc, c'est sûr qu'on a la chance de s'en parler. Puis je pense que la vente des billets va bien dans les deux cas, là.
Ah oui, absolument. Écoute, c'est tellement un combat qui est vendeur. Même si les gens disaient, notamment pour Pascal et Bossé, qu'ils voulaient pas voir ça, je pense que ça vend aussi. Je te prédis que ça va être plein à craquer à Shawinigan pour Simon King, Braidwood. On veut voir ça parce que Braidwood, on l'a dans notre cœur maintenant. Ça va être le méchant puis le baveux sur les réseaux sociaux. Il est tellement sympathique. Écoute, on a hâte de le revoir ici, sincèrement.
Excellent. Nathalie, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique de boxe.
Avec plaisir.
C'est le temps d'aller retrouver notre expert de soccer, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va bien. Écoute, Antonio, beaucoup de sujets cette semaine. On n'a pas le choix de revenir encore une fois sur une défaite de l'Impact, cette fois-ci par la marque de 2-0 face au Minnesota United. Me semble qu'on se répète à chaque semaine. Et Rémi Garde qui déclare ce matin à l'entraînement, et je cite, « Je crois effectivement que nous avons un manque de talent. Je n'ai pas à corriger ce que j'ai dit. Tony, à force d'envoyer ses joueurs en dessous de l'autobus, est-ce que les jours de l'entraîneur Rémi Garde sont comptés à Montréal? »
Mais en ce moment, je ne sens pas que l'équipe a envie de jouer pour un entraîneur en tant que joueur, puis avoir vécu comme joueur professionnel, un entraîneur qui dit des choses comme ça et que moi, je fais partie de l'équipe. Donc, j'ai pas trop de motivation à jouer. Fait que une équipe qui a pas de motivation à jouer et un coach qui, justement, lance ses joueurs en dessous de l'autobus, c'est sûr que le président, il est pas fou d'entendre des choses comme ça. Fait que tantôt, ils pourront pas tout changer l'équipe non plus, là. Donc, il faut qu'ils gardent ça, il faut qu'ils travaillent avec l'équipe, il faut qu'ils s'unissent, puis il faut arrêter de lancer des roches un peu, si on veut, parce que à la fin, l'entraîneur a besoin de ses joueurs pour avoir du succès, et il est pris avec ce qu'il a, donc il doit maximiser ce qu'il pourrait faire avec ces joueurs-là. Oui, on comprend qu'il manque beaucoup de talent, puis ça, c'est dans pas mal toutes les positions. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec lui, mais en ce moment, c'est pas le temps de lancer des roches à ses joueurs. La saison vient de commencer, puis on est déjà rendu où est-ce qu'il y a un détachement entre le coach puis les joueurs. Donc, bientôt, est-ce qu'il y aura-t-il un détachement également entre le club et l'entraîneur? On le sait pas, ça va être à suivre.
en 2018, là, c'est quoi l'approche qu'il faut avoir avec les joueurs? Est-ce qu'il faut être dur ou c'est mieux les flatter dans le sens du poil?
Moi, j'ai eu un entraîneur en MLS qui s'appelait Frank Yallop. Lui, là, il était capable de venir chercher le meilleur de chacun d'entre nous. C'était un ami, c'était un coach, mais il était comme un ami. Puis il me fait rappeler aussi beaucoup à Marc Santos. L'état moderne, ça prend des amis. Je crois que le Real Madrid, les joueurs qui sont là avec Zidane, c'est comme un ami. Je ne crois pas qu'il leur parle en tant qu'entraîneur. Oui, il doit en avoir là-dedans, c'est sûr, des conversations comme ça. Mais aussi le côté, je te prête l'oreille pour écouter tes problèmes ou essayer d'avoir le joueur vraiment le plus que possible à son meilleur, à son 100%, autant mentalement que physiquement. Mais donc, ça prend une oreille d'ami aussi comme entraîneur pour être là pour ses joueurs. Donc, les joueurs vont vouloir donner pas juste 100%, mais 200% pour cet entraîneur. Et en ce moment, c'est pas le cas. Et ce qui est bizarre là-dedans, c'est que on croyait tous que Rémi Garde allait avoir carte blanche pour aller chercher qui qu'il voulait et faire ce qu'il veut. Et les joueurs qui rentrent dans l'équipe, ça n'a pas l'air à vraiment changer les choses. Est-ce que les joueurs viennent de son gré à lui ou est-ce que les joueurs lui sont imposés? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'en ce moment, ce qui est clair, c'est qu'il dit, puis il ne le cache pas, il le dit tout haut et tout fort, l'équipe manque de talent.
Juste pour vous rappeler que l'Impact n'a pas marqué à ses 382 minutes. Hein,
c'est
GF?
Épouvantable.
Ça se peut pas. Écoute, Tony, on va parler maintenant de la Ligue des champions parce que samedi dernier, le Real Madrid a mis la main sur une quatrième coupe en cinq ans en disposant de Liverpool au compte de 3-1. Tony, comment qu'un gardien de but élite peut être si mauvais dans le match le plus important de sa carrière, là?
Moi, je pense bien que c'est le stress, c'est la pression qui se met. Liverpool a été une grande surprise avec les joueurs qui sont en place. L'entraîneur fait un travail exceptionnel. Et d'après moi, ils auraient pu gagner ce match. C'est pas que c'était impossible. Ça aurait pu être très possible. Donc, quand il y a des tirs ou quand que le gardien, c'est à son tour de performer, parce que chaque fois que le ballon se promène, tout le monde doit performer au même niveau. Quand toute l'équipe performe bien et que le ballon arrive à ce joueur-là, c'est comment qu'il gère son stress. Même s'il peut répéter le même mouvement 10 000 fois et qu'il va le réussir, le stress peut le faire en sorte qu'il peut le manquer une fois, tellement qu'il est puissant, et cette fois-là, ben, ça peut faire en sorte que c'est un but gagnant qu'on peut plus changer, qu'on peut plus revenir en arrière. Donc, le premier but de Benzema, où est-ce que le gardien la prend, là, il essaie de la relancer rapidement. Ouais. Donc ça, c'est aussi c'est une question de stress. Tu fais pas une relance où est-ce que le joueur est en plein devant toi. C'est le risque de mettre le pied, puis encore là, ça prend un peu de chance aussi, je l'avoue, mais quand même, il a voulu relancer quand il n'y avait pas besoin de relancer rapidement. Ils n'étaient pas en position de contre-attaque, absolument rien. Donc, c'est peut-être le stress de vouloir s'en débarrasser, de voir une opportunité de lancer le ballon à quelqu'un qui était libre et complètement oublier que le joueur est devant lui. Ça, c'est une des premières erreurs. Le deuxième but, c'est des belles bicyclettes, ça, absolument. On peut rien faire. C'était un des plus beaux buts de l'année, d'après moi, avec les autres de Ronaldo aussi, avec Juventus. Mais le dernier but, je crois aussi que le voir arriver, on a tous vu le ballon partir de très loin.
Oui.
Le gardien, d'après moi, voulait tout simplement l'attraper puis la relancer, donc vers la droite. Mais quand il a voulu la rattraper, je pense qu'il s'attendait pas à la force et à la puissance du ballon. Ces ballons-là doivent être, avec les points, on doit les frapper, on doit mettre le corps devant, complètement notre corps devant, puis l'amortir avec notre corps. Mais lui, je pense qu'il pensait juste mettre ses mains, puis l'attraper, puis faire une relance encore une fois rapide. Mais quand le ballon a frappé sa main gauche, il a vu sa main gauche qui a reculé et le ballon est rentré dans le but.
Comme on dit, il a levé les yeux. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient sur Twitter et sur Facebook, tout de suite après, coudonc, le soccer, c'est-tu arrangé, tu sais?
Ça a de l'air arrangé quand tu le vois comme ça. Tu dis, voyons, tu vois le ballon partir, le gardien est devant le ballon. Mais moi, c'est ça aussi. C'est des gestes qui a fait, qui peut le refaire pour avoir les prochaines pratiques. Ils peuvent faire des centaines de tirs. Il va toutes les attraper puis les relancer. Mais celui-là, il voulait aller trop vite. Puis celui-là, il y a l'effet du stress. En plus, qu'il a déjà fait une erreur.
Mm-hmm.
Donc, le stress, il se multiplie. Puis oui, ça peut faire une performance comme ça. Je n'en doute pas que c'est un très bon gardien, mais j'avoue que ce match-là, il n'a pas bien paru.
Après la rencontre, Ronaldo a déclaré « Ce fut un honneur de jouer pour le Real Madrid ». Qu'est-ce qui va se passer avec le joueur étoile portugais?
Est-ce qu'il dit ça pour parce qu'il veut partir, ou il dit ça pour que le club lui dise « Non, Ronaldo, on va pas te quitter, on va tu restes » pour renégocier son contrat. Donc, c'est quoi? À quoi? On ne sait pas. À quoi qu'il joue? Est-ce qu'il y a une entente? Est-ce qu'il y a une proposition avec d'autres clubs, etc.? Mais moi, d'après moi, si Ronaldo veut continuer à performer et à gagner, c'est avec le Real Madrid. C'est vraiment l'équipe en ce moment, c'est l'équipe de l'heure depuis quelques années. Et là, ils ont gagné le Champions League, mais ils vont gagner probablement la Coupe du monde des clubs encore une fois.
Ouais.
Donc, ils accomplissent des choses extraordinaires au-delà de la Liga. Je crois qu'ils se concentrent vraiment à un autre niveau, c'est d'être les meilleurs parmi tous les clubs, les top clubs de tous les pays en Europe et non pas seulement en Espagne. Donc, m'inquiéterais pas trop pour lui. C'est sûr et certain, mon conseil puis mon opinion là-dessus, c'est que j'espère pour lui qu'il va aller dans un club qui va lui permettre de continuer à aller chercher des Champions League, qu'il va pouvoir continuer à gagner des Coupes du monde de clubs, des gros trophées en fait. Donc, c'est sûr que s'il s'en va, par exemple, au Sporting Patriot au Portugal, je crois pas qu'ils vont gagner une Champions League avec lui là-bas.
Oui.
Donc, je crois qu'il c'est un joueur qui fait extrêmement attention à lui. C'est un joueur qui, même malgré son 33
ans... Écoute, il a 33 ans, là. Entre 33 ans, ça commence à être vieux pour un joueur de soccer, non, Antonio?
Ça commence à être vieux, oui, mais quand tu prends soin de toi et... Ils ont fait des petites tests d'évaluation physique apparemment de Ronaldo, puis ils disaient que lui était testé comme si ses performances, comme s'il performait comme un homme de 23 ans.
Wow.
Donc, moi, d'après moi, les joueurs de plus en plus vont se rendre de plus en plus vieux dans une carrière, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre plus loin. Drogba encore aujourd'hui, il joue, il est super performant, donc c'est des petites choses comme ça, c'est ce que tu fais, c'est ton train de vie. Ronaldo, il prend pas d'alcool, il sort pas dans les discothèques, c'est qu'un parent, il est papa, il s'occupe de ses enfants, et donc il prend soin de son corps. Fait que c'est sûr que lui pourrait être encore performant pour les, d'après moi, les trois prochaines années, facilement, mais là, il faudrait voir sa position aussi sur le terrain. Si jamais il reste au Real Madrid, je le verrais plus à la place de Benzema. OK? Parce qu'il y a moyen à courir, puis lui est très bon pour finir devant le but. Donc, c'est plus ça. Mais on ne sait pas. On va tout l'apprendre, je pense, éventuellement.
Écoute, Tony, je vais juste te donner une couple de statistiques. Là. Ronaldo, avec le Real Madrid, 450 buts en 438 matchs. Il a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans. Il a gagné le Ballon d'Or 5 fois. Et GF, je pense que tu as dressé une liste d'équipes potentielles où ce que Ronaldo pourrait se retrouver. Là.
Ben écoute, en Europe, là, il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se le permettre. Il y a 6 équipes financièrement qui pourraient se le permettre, plus le Sporting parce qu'il est actionnaire, justement. Mais sinon, là, tu aurais le Manchester United où ce qu'il a déjà joué et évolué là. Par contre, je pense pas qu'il voudrait aller dans cette direction-là parce qu'ils sont rajeunis. Ils ont essayé avec Zlatan, justement, puis ça n'a pas vraiment marché. Sinon, il y aurait Manchester City, où ce que non plus, je ne verrais pas vraiment un fit pour lui. L'Arsenal, où ce que c'est des jeunes joueurs, puis ils sont bons, puis on a vu quand même la finale de la Ligue des Champions. Tu as Chelsea, tu aurais le Paris Saint-Germain aussi qui pourrait t'intéresser. Sinon, il y aurait Barcelone, mais jamais le Real va l'envoyer là.
La possibilité qu'on retrouve Ronaldo avec la Chine, en Chine.
Avez-vous pensé à Juventus?
Juventus, en tout cas, ça n'a pas été mentionné. Et il faut pas écarter également la possibilité de la MLS avec peut-être la nouvelle équipe de David Beckham, le Miami. Là.
Malgré que la MLS, la nouvelle tendance de la MLS, c'est d'aller chercher des Sud-Américains, des jeunes joueurs. Puis tu regardes avec Almiron, Vela,
Joseph Martinez.
Exactement. Tu sais, c'est la direction qu'on prend. Parce qu'on a essayé avec les Pirlo, ça n'a pas marché. Ouais. Avec Gerrard, ça n'a pas marché. Fait que c'est la nouvelle tendance.
Puis on voit que Zlatan, présentement, là, après ses deux premiers buts, sa première semaine, on voit que, bon, ça a baissé comme intérêt. En tout cas, Tony, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Ronaldo, peut-être en MLS?
Moi, je serais super content. J'ai début de saison à l'Impact de Montréal, donc pour moi, c'est parfait. Puis c'est sûr qu'il serait plus ou moins le même effet, sinon plus, que celui de Beckham quand il est venu il y a quelques années en arrière. D'ailleurs, j'ai eu la chance de jouer contre Beckham. Fait que c'est sûr que partout où on allait, le stade était plein. Puis c'est le fun pour les téléspectateurs, puis les spectateurs ici présents, de voir quelqu'un qu'on voyait justement à la télé, mais maintenant on le voit devant nous performer. Et oui, à 33 ans, il peut être encore très, très, très performant. Et on pourrait se gâter, en fait, de pouvoir le voir jouer. Je suis sûr et certain que Drew, il n'y aura aucun problème à remplir son stade lors de ce match. Quand j'étais en MLS avec le San Jose Earthquakes, on se déplaçait dans un plus gros stade pour recevoir plus de gens qu'on jouait contre LA parce que Beckham était là. Ah oui. Et je suis sûr et certain que l'effet Ronaldo en MLS ferait déplacer plusieurs équipes pour des plus gros stades, entre autres l'Impact de Montréal avec le Stade Olympique.
On remplirait le Stade Olympique.
Il faut aller justement chercher 80 000 personnes d'après moi.
Quand Beckham est arrivé à Montréal, là, je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'était en 2012, la première année de l'existence de l'Impact de Montréal, ça a été au Stade Olympique, ça a été sold out, comme on dit, 60 000 personnes.
64 000.
Ouais, c'était quand même incroyable. De toute façon, écoute Antonio, on se reparle la semaine prochaine, on n'a plus le temps. Oui. Merci beaucoup.
D'accord, merci, bonne journée à vous.
Salut. Salut.
You're listening to the best podcast in Montreal. Droito Bill. With your host Covino DeFalco and J.F. Dos Santos.
Aujourd'hui, même les lancers de Guy Lafleur me font pas peur. Oh, wow.
Le podcast Droit au but est fier de recevoir le journaliste et présentateur des bulletins de sport à RDI et Radio-Canada, l'excellent Meeker Guerrier. Meeker, comment ça va?
Ça va très bien, messieurs, et vous-même.
Oui, ça va bien. Écoute, Meeker, on le sait que tu es un passionné de basketball et tu as eu la chance, comme nous, de vivre l'époque des années 80 avec Michael Jordan et maintenant avec LeBron James. Meeker, ma première question, c'est qui le meilleur joueur de basket de tous les temps, là?
Ben, premièrement, je déteste cette question-là pour plein de raisons. Premièrement, parce que j'ai pas encore réussi à effectuer, mais surtout parce que c'est une chose complètement différente. Jordan a joué dans les années 90. Ça lui a pris du temps avant de devenir le joueur qu'il était. À l'université, il était pas aussi dominant qu'il a été dans la NBA. LeBron James, lui, est arrivé directement de l'université. Il y avait beaucoup d'attentes qui étaient placées en lui. Puis c'est juste phénoménal ce que ces deux joueurs-là ont réussi à faire. Mais mon problème, en fait, avec les comparaisons, c'est que c'est difficile de comparer les époques. Toutes les époques sont différentes. C'est un peu comme comparer Maurice Richard et Alex Ovechkin. On n'est pas du tout dans les mêmes époques. C'est pas du tout le même... Bon, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'à l'époque de Maurice Richard, il y avait mon équipe aussi, là,
ouais,
mais...
Ouais.
Le jeu a beaucoup changé. Les adversaires étaient différents aussi. Donc, moi, il y a une chose qui me marque à chaque fois que je parle de LeBron James et de Michael Jordan, puis j'embarque jamais dans ce débat-là parce que pour moi, il est un peu stérile, un peu futile, c'est que quand on parle de Michael Jordan, on pense tout le temps à des grandes équipes. On pense à Scottie Pippen, toujours, qui était son bras droit. On pense, entre autres, à Tony Kukoc, qui était un tireur de trois points phénoménal pour son équipe, comme Steve Kerr, d'ailleurs, qui est devenu entraîneur des Warriors de Golden State. Il y avait Dennis Rodman aussi à cette époque-là qui jouait avec les Bulls pendant quelques années. Il y avait Horace Grant. On l'oublie, Horace Grant, c'était un joueur complet aussi. Peut-être pas aussi complet qu'un Scottie Pippen, mais c'était un power forward vraiment très excitant à avoir joué et puis qui était très dominant aussi. Il y avait beaucoup de joueurs avec Michael Jordan. Puis c'est pour nous pour enlever quoi que ce soit à Michael Jordan, mais on pense à des équipes qui étaient des grandes équipes. Pour ce qui est de LeBron James, je peux pas dire qu'il y avait vraiment des grandes équipes. Oui, il y a eu l'époque du Heat de Miami, où est-ce qu'il est allé rejoindre Dwayne Wade, puis il y a Chris Bosh qui est venu, il y avait Ray Allen aussi, mais il n'y a pas eu il y a pas un sidekick, si on peut dire comme ça, de la qualité de Scottie Pippen qui a suivi LeBron James tout au cours de sa carrière. Oui, il y a eu Kyrie Irving pendant quelques années, mais je regarde là en ce moment, là, Love, il fait pas le travail, il est très irrégulier. C'est pas un sidekick à la hauteur de LeBron James ou à la hauteur des coéquipiers de Michael Jordan à l'époque. Puis par-dessus ça, on rajoute ce que LeBron a réussi à faire 8 finales de suite. Ça s'est vu juste à l'époque de Bill Russell, entre autres des Celtics, une époque où il y avait moins d'équipes, mais où surtout les Celtics dominaient cette ligue-là, une ligue qui était à un autre niveau. Donc, je peux pas dire qui était le plus grand des deux parce que j'ai vu jouer Michael Jordan puis dans mon cas c'est encore le meilleur. Mais quand je regarde froidement LeBron James, juste le fait qu'on ait cette discussion là aujourd'hui puis on se demande qui est le plus grand entre les deux, ça en dit beaucoup sur la qualité de LeBron James parce qu'il y a jamais personne Puis à côté, même à l'époque de Kobe Bryant, on l'a jamais comparé à Jordan autant qu'on le fait avec LeBron James. C'est un peu comme, c'est vraiment difficile à dire là, parce que les deux sont excellents.
Ouais, vas-y, Jeff.
C'est drôle que tu amènes justement Kobe Bryant dans la conversation. Ouais. Justement, il a déclaré cette semaine qu'il fallait arrêter de les comparer un à l'autre, puis plutôt apprécier ce qu'ils font puis ce qu'ils ont fait, puis parce que c'est deux joueurs différents, puis c'est juste beau les regarder aller. Là.
Je sais pas pourquoi les gens ont les réflexes de dire moi j'aime LeBron, j'aime pas Jordan, j'aime Ovechkin, j'aime pas Crosby, j'aime Ronaldo, j'aime pas Messi. On dirait que l'être humain est pas capable d'apprécier deux joueurs de la même stature. Faut toujours comparer l'un.
Ils essaient de chercher le meilleur de.
Mais il y a plutôt ça. Que les médias ont leur rôle à jouer là-dedans aussi, parce que le sport, c'est pas au-delà des grandes performances, c'est aussi les grandes rivalités, c'est les confrontations. C'est sûr que quand les deux meilleurs se rencontrent, on veut savoir qui est en haut de la pyramide, qui est en haut de la montagne. Fait que c'est normal de les comparer puis de dire un tel est meilleur que l'autre. Puis les exemples que vous m'avez donnés, c'est des joueurs qui jouent en même temps aussi. Mm-hmm. Ronaldo, Messi, Crosby et Ovechkin. Mais à l'époque, Jordan, on le comparait au meilleur de la ligue aussi. Mais il était tellement dominant que c'était impossible d'accoter Michael Jordan. Puis c'est devenu une légende pas seulement de son sport, il était plus grand que son sport. C'est ça aussi qu'on oublie de Michael Jordan. C'est lui qui a mis sur la map Nike. Je veux dire, Nike, la compagnie multimilliardaire qu'on connaît aujourd'hui, qui commandait tous les plus grands athlètes du monde, ou presque, mais c'est presque Michael Jordan qui l'a mis au monde par la publicité puis l'association qui est eue entre les deux. Ça aussi, il faut le considérer quand on compare les deux athlètes, c'est que Michael Jordan, c'est plus qu'un grand athlète. C'est une légende, mais ça n'empêche pas que LeBron James est en haut avec lui. On a la conversation en ce moment.
C'est sûr qu'on a la conversation.
Oui, c'est vrai, on peut.
Écoute, présentement, comme tu dis, c'est sûr que, écoute, tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette comparaison-là. J'écoutais même les radios américaines. C'est le sujet de l'heure. LeBron ou Jordan. Juste pour vous donner une couple de chiffres, là, présentement. Michael Jordan a gagné 6 championnats. LeBron en a 3. Puis ça, faut dire que si Jordan avait pas été joueur de baseball pendant 2 ans, là, il aurait sûrement été 8-8, là, GF.
Ouais, mais
là.
C'est quoi l'idée aussi de, tu sais, t'es le meilleur de ton sport, puis tu décides, je vais aller jouer
avec
au baseball.
Les Bulls de Birmingham, moi, c'est
ça.
Ouais, mais ben, l'idée, c'est que t'as plus rien à prouver. Qu'est-ce que tu fais quand t'as plus rien à prouver à personne? Ben, t'essayes d'autres affaires, puis tu te donnes d'autres défis, puis t'essayes, tu sais. Puis oui, c'est vrai, probablement que tu aurais été 8-8, mais il y avait d'excellentes équipes à l'époque aussi.
Mais supporting cast incroyable.
Au de New York, là. Il y avait d'autres équipes dans la NBA qui étaient très fortes aussi, là, puis beaucoup de gens parlent de la parité dans la NBA à l'époque. Ben, aujourd'hui aussi, là, il y a d'excellentes équipes dans la NBA, mais non, il n'y a pas d'équipe peut-être aussi légendaire qu'il y en avait. Là. Moi, c'est surtout les Knicks à l'époque là, qui viennent en tête. Mais il y a aussi les Pacers de Reggie Miller, entre autres. Karl Malone était encore là. Pendant quelques années, il y a eu Magic Johnson qui était encore présent. Mais il y avait des grappes. On se rappelle, on parle de l'époque de la Trinity aussi.
Oui, c'est sûr.
Moi, je me suis amusé à comparer les statistiques un peu après 15 ans. Là. Puis LeBron James, il est dominant dans la plupart des statistiques que j'ai sorties, justement. Oui. Si tu regardes au niveau des points par partie, LeBron a 27,5 d'average comparativement à 20 pour Jordan.
Après 15 ans. Là.
Après 15 ans, exactement. Pour les pourcentages de field goal, LeBron, il y a 54,2 comparativement à 44,5 pour Jordan. Au niveau des 3 points, c'est 36,7 pour LeBron comparativement à 29,1 pour Jordan. Les rebonds. Au niveau des rebonds et des passes, là aussi, c'est là que LeBron...
Donc, tu es en train de me dire que LeBron, après 15 ans, il y a des meilleures statistiques que Michael Jordan.
Oui, c'est les statistiques qui le prouvent. Mais puis en plus, justement, comme on l'entend souvent, ben, il est tout seul dans son équipe.
Oui, c'est vrai, Maker.
Oui,
t'sais, il n'est pas aussi bien entouré que Jordan l'a été.
Ben moi, c'est ce qui me marque surtout dans le cas de LeBron. Puis il y a un autre point aussi qui est un peu un intangible, c'est que LeBron James, à son âge, a réussi dans la finale de l'Est, dans le 7e match, à jouer 48 minutes. C'est pas un gars qui est ralenti, qui a joué 48 minutes. Je ne sais pas si les gens réalisent, là, mais il a joué tout le match au complet. Mm-hmm. Et puis, moi, ça me dit que ce gars-là, c'est pas seulement un bon joueur de basketball, c'est un athlète incroyable qui se garde dans une condition exemplaire et il est capable de réaliser des choses vraiment phénoménales. Donc, c'est qui est le plus grand? Honnêtement, pour moi, la question n'est pas importante. On peut juste dire ces deux grands. On les compare justement parce qu'ils sont, ils méritent d'être dans la même conversation l'un et l'autre. Et ben, on peut juste apprécier le plus grand joueur de basket de son époque en ce moment. Et c'est LeBron James, là, et de loin, là.
Absolument.
Mika, il nous reste environ 5 minutes. T'as animé le magazine de soccer FC 919 sur les ondes du 91.9 Sport. Ça doit te faire un pincement au cœur lorsque tu vois que l'Impact de Montréal a une fiche peu reluisante de 3 victoires et 10 défaites.
Ben, pincement au cœur, oui, parce que, en ce moment, donc, c'est jamais le fun de voir des équipes montréalaises être en trouble. Puis l'Impact de Montréal, ben, j'ai un attachement particulier à l'Impact qui date du début de 94 parce que j'ai commencé à, en fait, 94 environ. Puis pourquoi 94? Parce que c'était la Coupe du Monde aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé à apprécier le soccer parce que ça se passait à côté de chez nous, aux heures de grande écoute. Et moi qui n'aimais pas particulièrement le soccer comme à peu près, je dirais, 99% des Québécois, je me suis rendu compte que ben ça pouvait être un sport qui est le fun, même s'il y a un ou deux buts par match, que les joueurs plongent. C'est le classique qu'on entend tout le temps sur le soccer. Et mon père et mon oncle m'ont fait réaliser que ben c'est, faut pas que tu regardes le soccer comme tu regardes le hockey. C'est un sport complètement différent. Oui, il y a des similitudes, mais à la base, tout est dans la construction. C'est un jeu d'échecs, le soccer. Fait que mon attachement à l'Impact date de cette époque-là. Et de voir que cette équipe-là, menée comme elle est, n'arrive pas à gagner, mais n'arrive surtout pas à avoir une identité. Et c'est ça qui me dérange de l'Impact. Au-delà des victoires, des défaites, ça, c'est pas grave. L'identité de ce club-là, c'est quoi? C'est quoi l'identité? Puis, ben, je pose la question, puis j'ai pas la réponse, puis je suis pas le seul à pas avoir la réponse.
On n'a qu'une réponse présentement. On pensait que cette année, ça aurait été Piatti, sauf que là, présentement, même le président Joey Saputo est allé d'une déclaration la semaine dernière, a dit que peut-être qu'il serait à vendre. Là. Donc même là, écoute, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ça va être un mois de juillet très intéressant. Là.
Mais même au-delà des joueurs, là, c'est quoi le style de jeu de l'Impact? Ouais. Est-ce qu'on est une équipe de contre-attaque, une équipe de possession de ballon? Est-ce qu'on est une équipe offensive? Est-ce qu'on est une équipe qui est difficile à affronter? C'est quoi l'identité de cette équipe-là?
Je pense qu'il y a un crochet aucun de ses réponses, là, présentement.
Ben, c'est ça. Et en plus, ben, la direction d'équipe, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan. Puis même s'il y en a un plan, je me suis fait dire par d'autres collègues en tout temps, on disait, ben, le problème, c'est que même s'il y a un plan, on est tellement émotif que aussitôt qu'il y a quelque chose, qu'il y a un pépin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on jette le plan aux poubelles puis on recommence.
On recommence à zéro.
On peut recommencer des plans aux deux mois, là.
Ouais. Ben, c'est sûr, mais là, regarde Rémi Garde qui lance ses joueurs en dessous de l'autobus. Maker, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais écoute, on n'est pas habitué avec ce genre de déclaration-là, là, semaine après semaine, dans une ville comme Montréal. Là. Je sais pas si c'est un phénomène purement européen, mais je sais pas.
Tu peux pas.
Non, mais le problème, c'est pas de le dire. C'est, un, de le répéter, et deux, cette équipe-là, à ce que je sache, Rémi Garde avait carte blanche. Bon, il a peut-être pas eu assez de temps pour construire son équipe non plus, mais moi, ça me dit deux choses. Soit qu'il n'y a pas carte blanche, puis il essaie de passer un message à la direction d'équipe, soit il avait carte blanche, puis il n'a pas eu le temps de mettre l'équipe à sa main, puis il va le faire en juillet. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est dans le trouble chez l'Impact de Montréal. Puis le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir des gens se désaffilier de cette équipe-là au fur et à mesure que la saison s'enlise. Parce qu'on s'entend qu'au moment où on se parle, là, on n'est pas encore au mois de juin. Puis déjà, on peut presque jeter la saison à l'eau. Ça fait penser à la saison du Canadien de Montréal.
Absolument. Comme on dit, on est éliminé à la fête des mères, là.
Alors, ouais. Mais c'est ça.
Non, mais c'est justement ça. Moi, selon moi, c'est... Il lance un message autant aux joueurs qu'à la direction. Puis je pense pas que c'est lui qui prend toutes les décisions comme il aurait voulu, comme il était supposé. En tout cas, ça reste à suivre. Trois équipes en reconstruction dans la même ville. Qu'est-ce qui se passe à Montréal?
Ben, je sais pas. C'est peut-être l'eau de la ville qui pose problème. On a eu des problèmes d'aqueduc il y a une couple d'années à Montréal. Honnêtement, je pense pas qu'il y a un lien à faire nécessairement entre les trois équipes. parce que, bon, c'est trois organisations complètement différentes. Mais je vous dirais qu'il y a peut-être l'aspect de manque de vision dans les trois équipes. Il y a un manque de vision à long terme, de préparation et de dire où est-ce qu'on s'en va, quel chemin on va prendre et surtout, un, qu'on ait un plan, mais deux, qu'on adapte le plan, pas juste le jeter aux poubelles. Adapter le plan au fur et à mesure qu'on avance. Les trois équipes ont ça en commun, qu'elles ne réussissent pas à mettre un plan en place et à l'exécuter de manière intelligente. On change d'idée en cours de chemin ou on prend des décisions qui ont des impacts à long terme. Je pense entre autres au Canadien de Montréal. Ben on prend des décisions pour le court terme qui nous affectent sur le long terme. Le problème avec ce genre de décision-là, c'est que si tu gagnes pas sur le court terme, c'est fait. Puis je vais en profiter. Puis de temps en temps, j'aime bien brasser un petit peu la cage puis jeter un pavé dans la mort en parlant d'échange de piqué. Le problème, c'est pas tant de l'avoir échangé. Puis je pense que cet échange-là en dit autant sur l'équipe que sur l'individu. Oui, il y avait sûrement des problèmes avec l'individu, mais ça en dit beaucoup sur l'équipe qui est pas capable de gérer une étoile comme ça, un joueur spectaculaire qui amène plus à ton équipe qu'en enlève. Et à l'inverse, ça en dit beaucoup sur la relation que ce joueur-là avec l'organisation. Peu importe, si tu penses vraiment que tu dois l'échanger, pas de problème. Mais tu échanges un joueur qui n'est pas encore arrivé à son apogée contre un joueur qui a passé le pic de sa carrière, qui est plus âgé, qui te coûte plus cher et qui va probablement terminer sa carrière avant. Ça n'a pas de bon sens.
Excellent
point. Et pour l'échanger, échange-le au moins. Il faut au moins de l'avenir, puis tu roules les dés à la limite que tu as un joker dans ta manche, un choix de première ronde, par exemple, et tu te dis, ben, ce choix de première ronde pourrait devenir un joueur équivalent ou juste une coche en dessous qui va me permettre de le remplacer dans 5 ans, parce que dans 5 ans, Piqué va être encore à
Piqué,
va être à son pic.
En tout cas, c'est pas ça qui est arrivé dans le cas de Piqué. Écoute, Maker Guerrier, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités là, en 15 secondes?
En 15 secondes, Radio-Canada, je suis autant au sport qu'à l'extérieur du sport. Vous pouvez me voir tous les week-ends à RDI matin et également à la radio durant l'été. Je vais être à Lutti Info tous les vendredis avec une chronique de sport. Puis l'année prochaine, c'est à suivre.
Excellent. Maker Guerrier, un gros merci puis j'espère qu'on se reparle bientôt.
C'est sûr qu'on va s'en parler, puis sinon, ben, il y a toujours Twitter pour continuer à me suivre, puis à jaser, puis continuer à jaser de toi.
Merci.
Merci.
JF, c'est déjà la fin de l'émission. T'as-tu du fun?
Ben oui, écoute, on a des bons invités. Le temps passe super vite.
Super vite.
Mais ça m'a ouvert l'appétit.
Ben excellent. Ben écoute, je t'invite à manger une bonne poutine. On s'en va au 1054 rue Notre-Dame, au restaurant Le Casseau du Quai. On est invitant.
OK, let's go.
On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci.
Salut.